Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa number 1.
This is Europe number 1.
Amis de 6h du matin, bonjour. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que nous avons une situation élevée, vous et nous, puisque nous sommes sur 1647 mètres grandes ondes et qu'Europe numéro 1, par la voix de Robert Villard, est heureux de vous souhaiter une bonne journée.
Par Salvadorissimo, le seul jus de fruits qui peut saouler les gosses.
Oui, car Salvadorissimo, madame, c'est la gnôle du petit.
Allez, encore 200 mètres et à la poste va être champion du monde. C'est fait, le drapeau à damier. Extraordinaire, nous n'avions jamais vu ça. Un pilote français, champion du monde de Formule 1.
Basket sur
un char avec le drapeau Vietcong est actuellement en train de se mettre en position. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont des canons.
Franck, pour commencer la soirée, je te propose d'aller faire un tour dans une boîte où nous ne sommes jamais allés encore. Une boîte de New York, au Café Métropole.
Ah non, je ne connais pas le goût de la bière dans ce café.
Au soir du 17 juin, il y aura, selon toute vraisemblance, deux députés algériens, alsaciens, pardon.
Bonjour à tous, excellent dimanche, heureux de vous retrouver dans le studio des enfants d'Europe 1. On a eu beaucoup de garçons dans l'émission, aujourd'hui place aux filles, et ça tombe plutôt bien en ce jour où sur l'antenne d'Europe 1 nous distinguons les lauréates du prix version féminin, l'hebdomadaire féminin que vous connaissez tous. Dans un tel contexte, l'invité des enfants d'Europe 1 ce matin se devait d'être une femme. Celle que j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir est native de Nice. Sa bonne humeur n'a jamais connu d'égal que sa beauté et sa générosité. Elle a été la complice des auditrices et auditeurs de la station pendant quelques années sur cette antenne où elle n'a laissé que des bons souvenirs, celui de son sourire et celui d'un rire si communicatif. Je suis ravi de recevoir dans le studio des enfants d'Europe 1 Madame Denise Fabre. Bonjour Denise.
Bonjour Marc.
Et pour l'occasion, eh bien, on sera
merci
accompagné.
Pour tout. Merci pour toutes ces éloges.
Non, c'est tout à fait normal. Vous le méritez. Pour l'occasion, dans ce studio, pour nous accompagner comme témoin impartial, comme observateur de quelques fous rires, Jean-Marie Pantalacci, oui. Réalisateur des stars de cette maison, dont vous faites partie, Denise.
Voilà. Il a toujours été le réalisateur des stars. C'est une star lui-même, d'ailleurs.
Bonjour Jean-Marie.
Quel
bonjour.
Fou rire.
Ça suffit,
quel
ça suffit.
Fou rire. On a partagé ensemble.
C'est quand je dis enfant d'Europe 1, Denise.
Oui. C'est... Ouais, ça me fait très plaisir. Bah, attendez, Europe 1, c'est Europe 1 number one. Quand même, quand on a eu l'honneur, le privilège de participer et d'aller en rang serré pour gagner des batailles qui étaient des batailles de sondage, alors c'était superbe. J'ai fait vraiment quelques émissions. Moi, quand j'y pense, il y a eu à peu près 3 ans, environ, ça fait 3 ans de bonheur.
Quoi. 75, 78.
Voilà.
Vous arrivez comment d'ailleurs?
Eh bien, j'ai rencontré Jean-Luc Lagardère un jour, qui m'a dit, au cours d'une réunion de métier professionnel, et qui me dit, mais pourquoi vous viendriez pas chez nous? Moi, ça me plairait beaucoup, vous avoir parmi nous. Et je dis oui, pourquoi pas. Et j'ai vraiment dit oui tout de suite. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis arrivée à Paris au début, et j'ai fait un concours de speakerine, de téléspeakerine. Moi, j'arrivais de Télé Monte Carlo. Mmh. Il y a eu un concours sur un an. Il y a eu 5 éliminatoires. Et je me suis dit, jamais je vais gagner. Parce qu'il y a trop... On était nombreuses, elles étaient magnifiques, des filles superbes. Et je me disais, jamais je vais gagner. Donc, je m'étais présentée à Europe 1, comme dans toutes les radios. Et partout, j'avais eu la réponse, non, vous n'avez pas une voix radiophonique, je vous jure. Bon, j'étais engagée sur TF1, et puis un jour je rencontre Jean-Luc Lagardère qui me dit, venez, mais vous pensez que je suis venue avec joie, parce que d'abord la radio, c'est un univers qui est complètement différent de la télévision.
Vous écoutez la radio
oui,
toute jeune?
Beaucoup, oui. Beaucoup, mais enfin sur la Côte d'Azur, puisque moi j'ai fait une native de Nice, c'est plutôt une autre radio.
Oui, plutôt RMC,
mais
oui.
Ici, oui, mais ici, oui, bien sûr.
Et Jean-Luc Lagardère, il vous avait dit, je vous verrai bien dans tel ou tel type d'émission ou
non, mais
vraiment,
venez. Puis après, j'ai tout de suite rencontré le directeur des programmes, on a cherché, enfin ils ont cherché pour moi, parce que j'étais tellement heureuse, je crois qu'ils m'auraient dit, voilà, vous faites ci, je crois que j'aurais été d'accord. Mais après, j'ai passé tout l'été pour essayer d'apprendre, parce que c'est vrai que ce métier est différent de la télévision. Ici, il faut parler tout le temps. temps. On peut arriver décontracté, alors que la télévision, c'était à l'époque quand même encore, puisque moi j'ai débuté quelques 10 ans avant d'arriver sur Europe 1, c'était quand même très très tenu, c'est très rigoureux, il n'y avait pas un cheveu qui bougeait. Et ici, c'était la décontraction, les fous rires complets que j'amorçais un peu à la télé, mais pour lesquels je recevais des notes de service.
Bon, on va en avoir une petite idée, puisque à l'antenne le matin, quand vous arrivez à Europe 1, il y a un certain Gérard Klein pour animer les matinales, et pour les animer, on peut dire qu'il les animait entre les pubs et les plaisanteries. C'était même un petit peu ambiance feu d'artifice.
Home Center d'Artiréal, Centre Régional Les Trois Fontaines à Cergy. C'est ouvert ce soir jusqu'à 22h.
Ça tombe bien. Hein.
Voilà, et ouvert jusqu'à 11h le micro de Gérard Klein, et un Klein, ça ne se copie pas non plus.
Wow, vous les parlez tout à l'heure, hein.
Ça fera la bise, bien sûr, il y a Françoise là.
Je sais, mais vous les parlez toutes les deux, mais vous restez un moment, on discute un peu, chaque fois vous partez boire un jus.
Ah bah oui,
mais
on a pas pris le petit déjeuner. Je travaille aussi un peu.
Oh, bah je peux aller avec vous, Marc, moi. Hier j'avais un petit micro à chef.
Bah oui, tu l'emportes, tu viens prendre le café.
Je veux bien, je t'ai gaulé hier, Marise. Hein,
oui.
Je suis surprise en flagrant délit avec quelqu'un.
Avec qui?
Oh, je ne le dirai pas.
Tu peux le dire si tu veux.
J'ai oublié. Non. Bon, je vous embrasse les filles. Ouais, on va essayer de faire un peu de peine au Corse belge ce matin avec Jean-Louis, parce qu'on a commencé à chanter en arrivant, il nous a fait tchut, 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 tchut. Alors Jean-Louis, tu fais ça que tu veux. Vas-y. Ça, c'est drôlement bien, c'est Yves Lecoq qui chante, c'est une promotion à propos de Jean-Loup Lafont. Et puis le Corse belge, je veux pas. C'était la pendule de l'entrée, c'est arrêté sur midi. Non. Il est vraiment fort, hein, le père. Bon, Jean-Loup revient sur Europe 1 de 18h30 à 20h30. Et puis, je peux vous le dire à vous, parce que vous allez être content, vous allez être ému. Qui c'est qui va manger avec lui à midi, avec Jean-Loup? C'est GG. Et qui c'est qui va payer? C'est Jean-Loup. Et Pierrick sera malade, c'est tous les deux.
Oh. Une entrecôte, je suis une entrecôte.
Bien,
avec Astral, jamais de gras. Jamais de gras ne saute autour de moi. Et ça ne salit pas. Nous les plats nous chantons pour la cuisson. C'est mieux avec Astra.
Des entrecôtes, nous sommes des entrecôtes. Pour la cuisson, c'est mieux avec Astra.
Très belle, très belle. J'insiste, je radote, mais il faut le dire. Même pas les gens qui attaquent la pub, moi. Il y a avec la publicité. Très, très belle chanson de Jean-Pierre Lang. C'est bien Lang. Et Giraud, Nicole Croisy, puisque là-bas vous êtes ses amis, parlez-moi de lui. C'est beau, hein. Vous savez, quand on épouse une femme qui habite très très loin et quand elle n'est pas là, on s'ennuie, ce qui est normal. Et quand on entend des trucs comme ça, je ne dirais pas que ça vous file un petit coup de blues, mais tout de même.
Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager. Et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi.
Alors, deux, trois petites précisions. Le Corse belge, d'abord, qui c'est Jean-Marie?
Ben, ça a l'air d'être moi.
Je te savais corse, mais pas belge.
Ben si, j'ai un papa corse, une mère belge, voilà.
Donc, mais il est plus corse que belge, à mon avis.
D'accord, donc tu faisais les rabat-joie, donc tu n'étais pas seulement bon, réalisateur.
Ce matin-là.
Parce que ce n'est pas la réputation.
Chacun peut avoir ses humeurs.
Non, Denis, jamais. Moi, je ne l'ai jamais vu de mauvaise humeur.
Jamais.
C'était apparent. On était vraiment une petite famille, quoi. On était au courant des joies, des bonheurs, des passions, des uns, des autres, des chagrins d'amour.
Alors précisément, parlez-moi de lui, Nicole Croisy, on vient de l'écouter dans un extrait. On sent notre ami Gérard Klein un peu flottant, comme si lui aussi pensait à quelqu'un au loin. Et c'est la vérité. Et c'est ce qui va indirectement vous changer votre vie à vous, Denise, parce que
complètement.
Un beau jour, qu'est-ce qui se passe?
Mais oui, moi j'arrivais à 11h tranquillement pour faire mon jeu. C'était très sympa. Le contact avec les auditeurs d'une radio, c'est toujours extraordinaire, parce que c'est vraiment du direct. Là. Et puis, une nuit... Je crois qu'il devait être 10-11h du soir. Je reçois un coup de téléphone de la direction des programmes me disant « Denise, vous êtes à l'antenne demain matin, 9h ». Je dis « Attendez, c'est pas mon heure du tout, 9h, c'est Gérard qui commence ». Et on m'a dit « Oui, mais Gérard vient de nous prévenir, il est parti rejoindre... » Je crois qu'elle était au Mexique, si mes souvenirs sont exacts. Au Chili. Et il partait, il avait pris l'avion, il avait le blues et elle lui manquait trop. Et le lendemain matin, je suis arrivée, je crois que j'ai pas dormi de la nuit, tellement j'avais le trac, Parce que bon, Gérard, c'est Gérard Klein. C'est, il est inimitable, il est extraordinaire. Et moi, j'étais pas Gérard Klein du tout. Donc il fallait que ce soit différent. Puis arriver à l'antenne et expliquer qu'il était pas là, c'était quand même important, parce que je me suis dit, tout le monde va être en colère. Ils vont croire peut-être que j'ai voulu prendre sa place. Enfin, c'était l'horreur complète. J'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit.
Et le cahier des charges de l'émission, c'était quoi?
Ben, le lendemain matin, c'était on passe beaucoup de musique et on parle parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer. Vous savez, une émission de radio, ça a l'air de rien, mais ça se prépare quand même. On est à l'antenne en direct et puis après l'après-midi, on prépare pour le lendemain, on repasse et tout. C'est quand même beaucoup de travail.
Et puis 2 heures, c'est long.
Eh oui. Hein? Oui, oui. Mais j'avais toute l'équipe, toute l'équipe autour de moi. Ils ont été formidables et c'est vrai qu'on s'est. Bon, je crois que ce matin-là, je sais pas quels sont tes souvenirs. Ce matin-là, alors vas-y, moi, raconte de l'autre côté du pupitre.
J'étais là puisque c'était moi qui réalisais Gérard Klein ce moment-là, donc continué avec Denise. Bon, c'était un petit peu tendu, mais finalement, ça, par la force des choses, ça s'est vite décontracté puisqu'il fallait le faire. On y est allé et Denise a été avec un naturel.
Bon, et puis Gérard, il n'est pas revenu.
Non. Il est revenu quelques temps après, il a fait un peu les après-midi ici, mais beaucoup plus tard. Donc Denise a continué sur l'horaire de Gérard.
Oui, parce que ils avaient trop peur qu'il reparte une deuxième fois au Chili.
Alors, dans la série des choses que vous avez faites, parce que vous en avez quand même fait pas mal, Denise, vous allez interviewer des hommes politiques.
Oui.
Ce qu'aucune animatrice ou ancienne speakerine n'avait fait jusqu'alors. C'était
mais j'étais toujours
première,
présentatrice, hein. Ouais. C'est-à-dire, quand je terminais à midi, je partais vite, je prenais ma voiture et j'allais faire mon annonce à midi et quart, à Cognac G.
Ah oui.
Ah oui. Et je dois dire qu'on est inconscient. Hein. Il y a quelques. Moi, aujourd'hui, j'aurais un trac fou de faire ça. Je crois que je ne le ferai plus jamais. Mais à cette époque-là, on était tous complètement inconscients. Je prenais ma voiture. Je n'ai jamais eu de problème de trouver une place pour stationner ni rien. J'aurais pu imaginer. Oui. Vous voyez, je n'avais pas de place garée devant. Il y avait que la direction qui avait une place. Donc, et j'arrivais, je faisais mon annonce de présentatrice à midi et quart. Donc, quelquefois, je n'annonçais même pas l'heure. On me permettait de ne pas annoncer l'heure et je partais vite, vite, vite.
Alors, les interviews d'hommes politiques ou de femmes politiques, vous en souvenez?
Oui. Ça, c'était. J'avais eu l'idée de ça, mais je voulais leur parler de tout sauf de politique, parce que bon, la politique, c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi, je veux dire.
Puis sont à la limite, parce qu'il y a des journalistes.
Oui, puis j'avais envie, moi, de savoir un petit peu comment ils vivaient, s'ils allaient chercher leurs enfants en classe, comment ça se passait à la maison, est-ce qu'ils avaient le temps de suivre les études des enfants et tout. Et là, je suis tombée sur des hommes, je me souviens de Georges Marchais, je crois, qui me faisait peur, qui m'intimidait. Et on m'avait dit, de toute façon, Georges Marchais, tu vas jamais le maîtriser. Et j'étais tout à fait consciente de jamais le maîtriser. Mais lui a été très sympa avec moi, parce qu'il y a une auditrice.
C'était peut-être le plus intimidé, non, pour une fois?
Ah, pas du tout, il n'y en a eu aucun. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient sur un terrain là un peu glissant pour eux, parce que bon, qu'ils choisissaient les cravates, les costumes, on parlait de tout sauf de politique. Combien de temps ils passaient avec leur famille, vous voyez.
Et parfois il y avait un dialogue qui s'ébauchait avec un autre invité. Le 26 avril 76, par exemple, la station avait organisé une journée spéciale avec un certain François Mitterrand.
Ah oui.
Et dans le studio de votre émission, le futur président va se retrouver en face de Gilbert Bécaud.
Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi.
On dit souvent qu'en France, tout se termine par une chanson. Eh bien là, nous avons commencé par une chanson qui vous a réuni tous les deux, M. Mitterrand et M. Bécaud, et puisqu'il s'agit de l'importance, c'est la rose. Alors, bonjour M. Mitterrand.
La rose est en effet très importante.
Hein? Alors, Gilbert Bécaud avait émis le souhait de vous rencontrer lors d'une émission que nous avons fait ensemble la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Et est-ce que vous étiez déjà rencontrés tous les deux auparavant?
Pratiquement pas, non. Non, je l'ai rencontré sans qu'il le sache. Ici ou là, dans cette vie de Paris qui en effet fait se croiser bien des gens, mais bien que je sois quelqu'un qui aime beaucoup entendre Gilbert Bécaud, je considère, je dis pas ça du tout, on m'a proposé hier de le rencontrer, j'ai tout de suite dit oui, après tout ça m'intéressait, mais vraiment je pense que c'est un des grands artistes de notre époque, et je suis donc très content de le voir aujourd'hui, cela sans préjudice de ce qu'il peut penser de ceci ou de cela, ce que j'ignore d'ailleurs.
Vous savez, moi, je ne fais pas beaucoup de politique. Je me consacre aux chansons, qui d'ailleurs de temps en temps
soi-disant le sont, alors qu'elles ne le sont pas en réalité.
En tout cas, l'essentiel, c'est de bien faire ce que l'on fait.
J'essaie.
Je crois que vous le faites bien. C'est dans ce sens que je suis toujours honoré de rencontrer des artistes qui, tels que vous, on suit à travers le temps. Parce qu'enfin, cela fait déjà un bout de temps que je vous entends. Et
oui,
le domaine qui est le vôtre, peut-on le comparer au domaine politique? Le difficile aussi est de durer, c'est-à-dire d'avoir une forme d'expression qui puisse retenir, au fond, deux générations successives, alors que les modes sont si changeantes.
Cela prouve
que l'art est solide.
C'est un cordage.
Oui.
Un cordage.
Oui, comme l'autre jour, nous avions des auditeurs à l'appareil. Oui. Nous avions des dames
qui
d'un certain âge.
Vous êtes encore très jeune parce que vous avez commencé très tôt.
Mais, oui,
enfin, mais il n'empêche que, surtout dans le domaine qui est le vôtre, les modes changent vite. Vous les
c'est
avez dominés.
Toujours Denis Farber avec vous, en compagnie de M. François Mitterrand. Nous croulons sous vos appels. Nous vous en remercions. Vous pouvez continuer à nous appeler, bien sûr, au 256 90 20 si vous avez des questions à poser à M. François Mitterrand. Une petite pause. Ah, c'est drôle de s'entendre comme ça. D'autant que toutes les émissions en direct étaient quand même précédées d'un petit déjeuner dans, ouais. dans la salle à manger de direction,
ouais.
à Europe 1, et où toute la rédaction de l'information était là. Et Jean-Luc Lagardère aussi. Et il y avait tout l'aéropage ce matin-là qui entourait François Mitterrand. Mmh. Donc c'est pour moi quand même qui arrivait. Oui, c'est très très impressionnant parce que bon, moi j'avais aucune formation. Moi j'allais parler de tout sauf de politique. Et quand je voyais, je sentais que c'était quand même très important tout ce qu'ils allaient me dire parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde dans le studio.
Vous aviez la sensation qu'ils avaient préparé, qu'ils étaient prêts à toutes les questions.
Non,
les hommes
pas
politiques.
Du tout parce qu'ils savaient non. pas du tout ce qu'ils allaient, ce que j'allais leur demander. Mais ils savaient que j'allais leur parler de tout sauf de politique. Donc ouais. ils ont été tous charmants. Et ce jour-là, en plus, j'étais chargée d'une mission par Catherine Langer, avec qui je...
Autre speakerine,
grande dame de la télévision, et qui avait été fiancée
voilà.
à François Mitterrand, et qui m'avait dit, Denise, elle avait vu, elle avait entendu que je le recevais, puisqu'à l'antenne sur Europe 1, on le disait, Denise Fabre en compagnie de M. Mitterrand,
voilà,
journée spéciale. Et Catherine m'avait dit, écoutez, si vous le voyez, ce serait gentil si vous pouviez juste lui glisser à un moment donné, parce que normalement, chaque année, à l'époque... le jour de leur fiançailles, ce jour-là, elle recevait toujours une rose, une rose rouge. Et cette année-là, elle n'avait pas reçu. Alors je ne savais plus à quel moment le placer quand même. J'ai attendu la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, je me suis tournée vers lui. J'ai vu tout son aéropage, tous ces hommes de confiance se rapprocher. C'était fini, au revoir madame. Et moi, je voulais lui glisser un mot à l'oreille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle vient l'embêter? Elle va lui demander, qu'est-ce qu'elle va lui demander? Vous lui disiez, monsieur le président, j'aimerais juste vous dire quelque chose en privé. Donc, très gentiment, il s'est isolé de tout le monde.
Oui.
Et je lui ai dit, de la part de Catherine. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai donné des instructions à ce que ce soit fait, je vais immédiatement en rentrant me rendre compte de faire le nécessaire, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc j'ai jamais dit, moi, à Catherine, que je le lui avais dit. Parce qu'elle m'a dit, est-ce que vous l'avez vu? Je dis que je n'ai pas eu le temps, Catherine, j'ai pas eu le temps. Et le lendemain, elle est arrivée en me disant, mais de toute façon, heureusement que vous ne lui en avez pas parlé, parce que je l'ai reçu.
Belle
c'est
histoire.
Super, oui, c'est une super
très, très
histoire.
Belle histoire.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 réunis autour d'une de leurs animatrices chouchou, Denise Fabre. Denise.
Et Pampan.
Et Jean-Marie Pantalacci.
Oui, et Jean-Marie.
Qui a été, entre autres, le réalisateur de Denise Fabre.
Et qui est toujours le réalisateur des stars dans cette station.
Et la star des réalisateurs,
voilà,
il m'est arrivé de le dire. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais, François Mitterrand, ils sont tous venus.
Oui.
Tous impressionnants. Tous impressionnés ou
oui, non, pas.
Quel souvenir vous en avez
gardé? Pas du tout impressionnés.
Pas du tout impressionnés.
Pas du tout, je pense pas. Ils savaient que c'est. Bon, avec moi, ce serait facile parce que je n'allais pas poser des questions qui pouvaient les ennuyer, c'est certain. Mais quand même, ils étaient un petit peu. C'est Georges Marchais qui était un peu tendu parce qu'il se disait, mais où elle va m'emmener? Parce que c'est vrai que tous, je ne sais pas, mais ils n'ont pas énormément de temps. Donc si je leur posais, ils avaient quand même. Un petit peu peur que je leur pose des questions où ils pourraient pas répondre. Vous allez chercher vos enfants à l'école, qui choisit la cravate, combien de temps vous consacrez à votre famille, qui s'occupe. Vous voyez, dans la maison, comment ça se répartissait.
Les trucs du quotidien, oui.
Est-ce qu'ils passent en cuisine de temps en temps le dimanche pour faire le plat, le plat du dimanche, des choses comme ça. Et Georges Marchais, je me souviens, avec sa voix de stentor, parce que lui, il était connu pour. Il avait des envolées lyriques à un moment donné, personne ne pouvait l'arrêter. Et moi, encore moins que tout autre, parce que je crois que j'étais sous la moquette. Heureusement, j'avais Pampan, qui était en face. Et il faut dire qu'avec le casque, quelquefois, il m'aidait en me disant « Réponds ça, vas-y, te laisse pas faire. » J'ai toujours eu énormément d'indications quand même grâce à eux pour pas me laisser faire par moment. Et Georges Marchais, à un moment donné, avait une auditrice en ligne qui a commencé à le brancher politique. Et moi, je me suis accrochée au micro en disant « Ça y est, c'est parti, je vais pas pouvoir les arrêter. Et moi, je suis pas là pour faire... » Et on est en direct toujours. Hein. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas faire un montage après. Et là, il a été merveilleux parce qu'il a répondu « Madame, nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Et je ne voudrais pas ennuyer ma chère petite de 10. » Je me souviens de ce jour-là. Ouf, j'ai poussé un ouf de soulagement. Donc, alors, tous ont joué le jeu.
Il y a eu les hommes politiques et puis il y a eu tous les autres. On a entendu Bécaud tout à l'heure. Vous me disiez...
Brassens.
Il y a eu Brassens.
Oui, Brassens m'a intimidé énormément.
Ça, c'est un souvenir, pourquoi ?
Ben, parce que c'était encore une journée spéciale, Georges Brassens. C'est Georges Brassens, c'est...
Un monument.
Ah, c'est un monument. Quand il arrive partout, et d'abord, il est entouré toujours de son équipe de d'amis, je veux dire, parce que lui-même, ça doit un petit peu l'ennuyer. Oui, les copains d'abord. Il s'est assis à côté de moi et je me souviens, Brassens, pour moi, je savais plus comment le prendre. Je crois que pendant le générique, je lui ai dit, je suis très, très intimidée. Il m'a dit, je le vois, je le sens. Alors, je vais vous dire quelque chose, il m'a dit. Imaginez-vous, pendant toute l'émission, vous imaginez avec un pot de fleurs sur la tête et vous verrez, ça ira mieux. Et je vous jure que c'est vrai. Et l'émission a démarré dans un fou rire parce que, bien entendu, l'imaginer avec un pot de fleurs, c'est certain que il était quand même ridicule. Donc, toute l'émission s'est bien passée. Vous voyez, ils sont très sympas et très simples. Quoi.
Alors, on s'est remis dans l'ambiance de cette fin des années 70 à Europe 1. On va s'attarder sur ce qu'on pouvait entendre à ce moment-là sur l'antenne et sur certaines voix qui ont fait l'identité de la station. Un exemple, l'Europe Stop, une institution.
Roulez avec Europe 1.
Bon, ben, j'ai un rigolo de service. J'ai peut-être pas péché, mais j'ai Hubert. Je suis drôlement contente. Bonjour, Hubert.
Je ne vois pas ce que tu trouves de drôle à tout ça. Vraiment, alors.
Cherche bien, va.
Ben, écoute, je viens de traverser la rue Richard à Saint-Étienne.
Mais je connais.
Ben, évidemment.
Très bien.
Ben, oui, ben, je sais. J'ai vu des plaques sur tous les endroits où tu as passé ta jeunesse.
Oui.
Et je suis en train de suivre une auto, exceptionnellement. Il y a un bel autocollant Europe 1, c'est naturel, et un autocollant du progrès.
Si c'est ma famille, hein, t'es généreux, quand même.
Allons-y gaiement. C'est une petite Renault 5 bleu clair, il faudra me la nettoyer d'ailleurs, immatriculée 4818 R142, monsieur R142, arrêtez-vous si vous êtes en train d'écouter Europe 1, arrêtez-vous. Ah bah voilà, bah, évidemment tout le monde écoute Europe 1 ici, parce que j'ai des sous pour vous, approchez. Allez, on va faire une petite manœuvre habile là, impeccable. Bonjour, bonjour, quel est votre prénom ?
Roger.
Roger, ben bah, tirez donc une de ces enveloppes. Celle du milieu, bah, allons-y pour celle du milieu. Vous savez qu'il peut y avoir jusqu'à 1 million de centimes là-dedans. Hein. Allez, ouvrez ça.
Il y a un paquet de billets alors. Alors là, non. Je suis vraiment ému. Alors, 1, 2.
Ça fait 250 000 ça. Hein. Alors.
Alors, 300, 550, 600. 750,
oh là là.
800 et 1000.
Et 1000 quoi ?
Enfin 1000 nouveaux francs.
Mais non !
Enfin, ça fait 1 million, non ?
Ben oui !
Oh,
mais
c'est non. Pas vrai. Je rêve, je craque.
Ben moi, non, j'ai pas y croire. Moi, je vous jure, alors.
Merci bien, hein ?
Ah, c'est votre femme ?
Oui, c'est ma femme, oui.
Ben, quel est votre prénom ?
Germaine.
Ah, ben ma chère Germaine, tiens, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse dans le ménage ?
Oui, un petit peu.
Eh bien, prenez les sous.
En fait, ça fait agréable.
Voilà, ouais. Ben, on a des petits millionnaires stéphanois, là. Si vous n'avez pas encore votre autocollant Europe 1, c'est naturel, ben, vous avez peut-être perdu un petit million, là. Alors, vous pouvez vous le procurer quand même, en même temps que celui du Progrès, dans tous les points de vente du journal La Tribune, Le Progrès, de Saint-Étienne et de la région. Hein ? Eh, mes petits minous, là, Germaine. Germaine et Roger, les blancs millionnaires, partout, tranquille.
Ah oh ben oui, alors là...
Hubert, il va falloir qu'on reprenne l'antenne.
Bon,
félicitations
aux
Stéphanois, au premier de la matinée, je suppose.
Absolument, puis ça
formidable.
Va continuer toute la journée.
Ben, c'est extra, on te suit, à tout à l'heure. Hein.
Au revoir, ma belle.
Au revoir, il est 10h05 déjà.
Oui, enfin, il n'est pas 10h05, mais vous avez évidemment reconnu l'incomparable Hubert et, bien évidemment, Julie qui continue de faire le bonheur de cette antenne. Vous en avez fait des Europe Stop, Denise ?
Non, j'ai pas fait d'Europe Stop, moi. Dans la voiture qui suivait, qui arrêtait, non, je l'ai pas fait. Moi, j'ai fait la campagne pour Europe 1, c'était la campagne d'affichage. Non, j'ai
c'était
pas fait.
C'était quoi, ça, la campagne d'affichage?
Il y avait toute une... J'étais sur toutes les routes de France, au volant de la voiture, et on mettait Europe 1, c'est naturel.
Oui, Jean-Marie.
Oui. Oui, c'était une campagne de promotion. Oui. Il y avait dans un premier temps Gérard Klein avec ses moustaches tricolores.
Oui, moustaches, voilà.
Il a suivi sans moustache, évidemment.
Voilà. Mais en tricolore, je te remercie de préciser quand même ce qu'on aurait pu croire.
Le contact direct avec les auditeurs, c'est vraiment
fabuleux.
Un truc.
Ah oui. C'était moi j'adore.
Truc.
Ah oui. Après, il y a Pierre Bellemare, à un moment donné, comme patron, enfin comme directeur des programmes. Et il avait eu l'idée d'une émission, je crois, Si j'étais à votre place, où on posait le cas chaque matin d'une auditrice qui avait un problème, et on faisait appel à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutaient, et on se mettait tous en contact. Je me souviens de ça, c'était super.
On va en parler tout à l'heure. Quel était, a priori, bon, répondez sans crainte, hein,
oui.
La condition de la femme à Europe 1, c'était, ça allait ou,
Tout à fait.
On a parfois dit que c'était une radio un peu misogyne.
Oh, je ne l'ai jamais ressenti. Non, mais nous, enfin, je veux dire, peut-être c'était notre équipe qui n'était pas misogyne, mais je ne l'ai jamais ressenti. Non, on se retrouvait le matin avant de prendre l'antenne à 9h, on se retrouvait toujours pour le petit déjeuner juste à côté. Et puis, c'était vers 7h, 7h30, on lisait la presse, on faisait vraiment avant l'émission, alors qu'on avait encore travaillé la veille, avant l'émission, on se refaisait un dernier point, et quand on arrivait, on était tous en forme. Tout ça pour s'assurer que tout le monde était bien réveillé pour l'émission, quoi. Ouais.
Autre voix qu'on pouvait entendre à cette époque-là, et puisqu'on parlait de jeux, en voici un. Une autre jolie femme, Anne Pérez, un autre jeu, le jeu du carillon.
Merci Patrice, et pour le jeu du carillon d'Europe 1, eh bien j'appelle monsieur ou madame Millot à Valenciennes. Allô, bonjour. La la la.
La la la.
Eh, hey, c'est formidable. Bravo, vous connaissez bien Europe 1. C'est Anne Pérez qui vous parle. Vous avez déjà gagné. Bonjour. Vous avez déjà gagné un bon d'achat de 200 francs à La Redoute. Et j'espère que vous avez bien feuilleté le catalogue de La Redoute automne-hiver. Car je vais vous demander de choisir une page entre 8 et 913. Je vous rappelle que vous gagnerez l'objet de plus grande valeur figuré sur cette page. Alors choisissez une page.
813.
Hein, ne quittez pas, je consulte mon catalogue.
Oui.
Ah, j'espère que vous êtes bricoleuse.
Oui.
Vous avez gagné un poste à souder à l'arc.
Ah.
D'une valeur de 590 francs.
Combien?
590 francs. Hein? C'est formidable.
Ouais, c'est pas mal.
Vous faites du bricolage?
Non, mais c'est mon père plutôt.
Eh bien, il va être content. Quel âge avez-vous?
12 ans.
Très bien, et bien voilà un joli cadeau à faire à votre papa.
Ouais.
Alors ne quittez surtout pas, nous allons prendre vos coordonnées. Ouais. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt.
À bientôt.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h06 et nous retrouvons Christian Morin.
Christian Morin aussi,
oui.
Anne Pérez, enfin bon, que des noms, quoi. Oui. C'était une grande famille, non?
Oh, oui.
Toujours.
Mais vraiment un esprit très très familial, on était tous ensemble, on se retrouvait même en dehors des heures d'antenne et en dehors des petits déjeuners, c'était vraiment très très sympa.
C'est bon de faire gagner les auditeurs?
Bah, c'est toujours très agréable de faire gagner quelqu'un, c'est superbe. Mais venir en aide à quelqu'un, c'est aussi très très agréable. Parce que quand on arrivait à trouver des solutions pour un problème d'auditeur ou d'auditrice, c'était vraiment... Puis le direct est extraordinaire. Moi, franchement, c'est un vrai, vrai régal.
Autre femme, autre voix, Viviane Blassel.
Viviane, oui.
Qui est chroniqueuse aujourd'hui à TF1 et elle s'occupe
de mode
notamment. Oui. On va la retrouver. On va la retrouver dans le studio de Radio Libre, une émission de François Jouffa. Radio Libre, ce 27 février 77, à tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la télévision.
Viviane Blassel, François Jouffa, ce soir, 20h, 22h30, Radio Libre à...
À tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la télévision.
Europe 1.
Léo, Linux, je ne vous entends pas.
Ça m'aurait étonné.
Voilà, c'est bon. On veut commencer l'émission.
Avec nous autour de cette table, beaucoup de monde, on commence par la femme qui est Michèle Maillet, ex-speakerine d'Antenne 2. Michèle.
Bonjour.
Bonsoir.
Et elle est telle Ève, une Ève des Antilles, elle croque une pomme.
Eh oui, la pomme d'Antenne 2, goo 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 goo.
D'ailleurs, bien sûr, vous l'avez reconnu que c'est la musique de Colombier sur le générique de fin d'Antenne 2 et on va peut-être là entendre une voix que l'on connaissait, celle de Michel Maillet, qui avait l'habitude de parler comme ça pour dire bonne nuit à la fin à la télévision.
Ben oui, je dirais pas bonne nuit au micro d'Europe numéro 1 aujourd'hui, mais je n'ai ni les titres ni l'expérience des messieurs qui m'entourent, mais je ne comprends pas pourquoi il fallait immoler Michel Maillet pour donner une image du changement à l'antenne, à Antenne 2, et pourquoi une, et pourquoi moi, et je creuse la question à tous ces messieurs qui m'entourent.
Pardon,
un
Viviane.
Entretien qui promet d'être explosif dans un petit instant.
Alors, radio libre à tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la télévision après le flash de 21h.
C'était presque logique pour une speakerine de faire de la radio. Ouais. Vous vous souvenez de la personne qui
Michel ?
Oui,
de Michel. Michel Maillet,
Michel
bien
Maillet,
sûr. Oui. Michel Maillet, parce que moi j'ai commencé sur la deuxième chaîne. Hein? Avant qu'on fasse un échange, parce que Pierre Sabag avait pris la direction de la deuxième chaîne, alors qu'il était sur la première. Et c'était Roland Dordain, assisté de Jean Drucker, qui n'était pas encore devenu le Jean Drucker de M6 plus tard, qui est venu un jour me dire, écoute, Catherine Langer assassine tellement les programmes de la Une, parce que son mari est sur la 2, que nous, on a décidé qu'elle repartirait sur la 2 avec son mari, et tu viens sur la première. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la première chaîne. Et sur la 2, à l'époque, j'avais comme copine Michel Maillet, mais il y avait aussi une autre speakerine comme Michel Maillet, qui était magnifique et aussi belle que Michel, qui était Sylvette Cabrisseau. Mais moi, j'avais pas l'impression que qu'on était misogyne avec les femmes à l'époque. J'en parlais avec Pampan, je disais, j'ai aucun souvenir de ça.
C'est plutôt la rédaction.
Ah, c'est la formation peut-être.
Ah oui.
Peut-être.
C'est possible parce que des animatrices, on vient d'en entendre quelques-unes, je veux dire Viviane, Anne Pérez, Julie, Maryse et tant d'autres. Tiens, autre voix féminine qu'on va écouter dans un autre genre de beauté, Germaine Soleil, Madame Soleil,
ah
elle,
oui.
elle officiait l'après-midi.
Ouais.
Allô? Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Nous vous écoutons.
Bonjour madame Soleil.
Bonjour madame.
Je suis née le 23 janvier 1945 entre 11h et midi du matin.
Oui.
Je viens d'avoir mon premier bébé récemment qui est né le 9 novembre 70. Je ne suis pas mariée, je suis donc maman célibataire.
Oui.
J'aurais voulu savoir si madame Soleil voyait mon avenir, comment elle le voyait, s'il y avait une solution du côté du papa ou pas.
Eh bien, madame, le papa, comme vous dites, n'a pas l'air d'avoir le sens de ses responsabilités d'après votre thème. Hein? Il va falloir le mettre en face de ses responsabilités-là. Vous continuez à le voir.
Non, absolument pas. Justement, disons qu'il y a un envoi de lettres systématique.
Oui, enfin, vous avez des nouvelles.
Oui.
Bon, est-ce que vous avez la preuve de sa paternité?
Non, absolument pas. Je ne peux pas, disons, la faire valoir. J'ai bien été fiancée, mais j'étais fiancée que 3 jours. Les fiançailles se sont rompues après.
Enfin, cet enfant ne s'est tout de même pas fait tout seul.
Non.
Avez-vous donc des circonstances qui vous permettent d'affirmer que lui est bien le père de votre enfant? Il y a quand même des traces. Vous êtes allée dans des endroits où on peut retrouver ces traces? Non, ce n'est pas possible.
Possible, non.
Ah, et vous n'avez pas de témoin? Il n'a pas parlé de cette paternité devant quelqu'un?
Non, absolument pas. Il a toujours nié cette paternité, en quelque sorte. Il a toujours refusé de connaître cette paternité. Il en a, disons, il a renié totalement. Hein.
Oui. Et vous pensez... Et vous l'aimez toujours?
Non, non, absolument pas.
Bon, bah alors dans ces cas-là, petite, hein, il faut prendre le taureau par les cornes, faire une croix là-dessus. Mmh. C'est un homme qui oublie ses devoirs. Malheureusement, il y en a beaucoup de comme ça. Mmh. Et on ne poursuit pas les hommes qui abandonnent leurs enfants. C'est bien dommage. Mmh. Alors, faut-il encore en donner des preuves? Vous ne pouvez pas le faire, donc il n'en est pas question. Alors il faut vous prendre par la main, mon petit, et ne pas vous désespérer. Parce que d'après votre thème, vous allez tout de même vous en sortir très bien. Vous aurez des années difficiles, comme toutes les mamans d'ailleurs. Vous savez, quand on élève des enfants, on a toujours des moments difficiles. Je ne vous vois pas sans appui, parce que ça, vous avez quand même des appuis maintenant. Les mamans célibataires ne sont pas comme autrefois abandonnées à leur seule ressource. Hein. Il y a tout de même quelque chose de très bon au point de vue matériel. Vous serez donc aidé, vous serez donc soutenu, et ça ne vous empêchera absolument pas de faire un foyer normal dans l'avenir. Donc, mon petit, ne vous découragez pas et dites-vous bien, alors maintenant, je prends le taureau par les cornes, je ne compte que sur moi et je vais tout droit au devant de la vie. Et cet enfant, madame, aura d'ailleurs une très bonne destinée car il est né sous de très bons auspices.
Ça, c'est du bon sens. Hein.
Ah, c'est plein de bon sens. Ah oui, mais et puis elle disait des choses vraiment crûment à l'antenne. C'était c'est pour l'époque.
Ah, c'est carré, oui.
Ah oui.
Il faut avoir de la répartie quand même quand on a les auditeurs comme ça. C'est pas un truc peu difficile, parce que ça vous l'avez fait aussi pas mal.
Oui, mais moi j'étais pas dans le même domaine que Madame Soleil. Hein,
vous croyez aux astres d'ailleurs?
Moi, oui, à l'astrologie.
À l'astrologie.
Oui, j'y crois. Enfin, je ne veux pas y croire, mais je veux surtout en rien entendre, mais en fait, j'y crois un peu, oui. C'est vrai.
On se retrouve pour parler des auditeurs et des auditrices, ce qu'on n'appelait pas encore l'interactivité, après une pause.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 avec Denise Fabre et Jean-Marie Pantalacci. On vient d'écouter Germaine Soleil. Elle a fait une chronique aussi, oui. dans votre émission,
oui.
Denise.
Oui, parce que j'ai changé plusieurs fois. Ah, sur, oui, les 3 ans, on avait changé de thème plusieurs fois. Et je l'avais une fois par semaine avec moi. Donc on avait les auditeurs et auditrices en direct. On a eu Michel Klein aussi.
Michel Klein, c'est vétérinaire.
Ouais. Alors c'était dès qu'il y avait un petit problème avec les animaux, les gens appelaient. Et moi, chaque fois que j'étais enrhumée et que j'avais un problème, il me disait prends ça. Je disais mais non, ça c'est des trucs pour animaux. Mais c'est pareil, il est humain. Il me disait.
Qu'est-ce qui explique d'après vous votre popularité auprès des auditeurs? C'est votre chaleur, c'est votre sourire?
Je ne sais pas du tout. Non. Alors franchement, j'ai toujours été très très étonnée.
Alors un avis extérieur,
oui.
Jean-Marie.
Oui, moi j'ai ma petite idée là-dessus quand même. Parce que Denise, quand on fait de la radio, quand on parle à la radio, il faut savoir écouter. Et Denise savait bien écouter, que ce soit les personnalités comme François Mitterrand tout à l'heure, elle écoutait de la même façon les auditeurs.
Alors la radio à l'écoute de ses auditeurs, à l'écoute de ses problèmes quotidiens, de ses peurs, de ses bonheurs, de ses expériences. Eh bien écoutez, si j'étais à votre place, on en parlait de cette émission tout à l'heure, on en a retrouvé un extrait.
Solange, j'ai votre lettre devant les yeux. Cette lettre mérite vraiment que nous vous disions « si j'étais à votre place ». Solange a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est mariée à Jean-Luc. Dès le départ, Jean-Luc a mis les choses au point et posé des conditions. Je suis un homme de la campagne, a-t-il dit. Et c'est là que je veux faire ma vie. Avec toi, si tu m'épouses. Toujours Jean-Luc qui parle. Solange a accepté. Et le jeune couple est allé s'installer dans la région d'origine du mari, à quelques kilomètres de chez ses parents. Et depuis 5 ans, c'est long, Solange n'est pas heureuse. Écoutez-la.
Et depuis 5 ans, voilà ma vie. Chaque soir, après notre journée de travail, Jean-Luc va voir ses parents et il rentre tard, juste pour dîner. Entre-temps, je reste seule chez nous, je prépare le dîner et j'attends. J'ai ensuite prétexté n'importe quoi pour que nous déménagions. Nous avons déménagé, ajouté plusieurs kilomètres entre la maison de ses parents et notre nouveau domicile. Le seul résultat est qu'il rentre maintenant plus tard pour dîner à cause de la distance. Alors vraiment, je ne vois pas la solution. J'en suis même venue à songer au divorce. Mais on ne divorce pas de quelqu'un que l'on aime et qui vous aime. Je suis sûre, je veux croire qu'il y a un autre moyen, peut-être plusieurs. Et je voudrais tellement que quelqu'un téléphone pour me dire qu'elle existe.
Pour aider Solange à se créer un vrai foyer, appelez tout de suite le 256-90-20. Je vous retrouve sur l'antenne dans 3 minutes avec vos premiers conseils.
Là, c'est beaucoup plus sérieux. Hein.
C'est grave quand même.
La lecture de la lettre.
Oui, c'est grave. Ce sont des problèmes de tous les jours, des problèmes qu'on rencontre quelquefois dans sa vie. Et c'est vrai que on le vit mal, avec beaucoup d'émotions. Mais les gens ont répondu immédiatement. Ils ont téléphoné. C'était moi, je ferai ceci. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait ça. C'était super.
Vous arrivez de rester en contact avec des personnes que vous aviez aidées ou pour qui vous aviez trouvé une solution?
Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, on arrivait toujours à trouver une solution. Ils étaient très contents. Et puis voilà, je pense que l'équipe restait probablement en contact. Mais moi, en direct, je veux dire, vous ne pouvez pas, vous, personne seule. En plus, j'étais à mon âge, je pouvais difficilement conseiller dans des cas quelquefois très graves comme ça. Donc en direct, parfois, j'ai eu les gens au téléphone, on s'est parlé après l'émission. Mais sinon, pour des cas extrêmement graves, moi, j'étais pas. Enfin, ce que j'avais vécu personnellement ne pouvait pas leur servir.
Voilà. Le secret de la réussite d'une radio, c'est l'auditeur, c'est le rapport avec l'auditeur, non ?
Je pense, parce qu'il y a beaucoup de... Ce sont les plus merveilleux témoignages qu'on a avec eux. Mmh. C'est vrai. Puis c'est vrai, c'est du direct. Enfin, moi, j'adore ça.
Je pensais effectivement, comme Jean-Marie, que ça a été votre ton, la manière dont vous accueillez l'auditeur et l'auditrice, ça a été une des raisons de votre popularité. En tous les cas, vous faites partie des animateurs vedettes, de ceux et de celles que la station va, par exemple, missionner pour le réveillon du Nouvel An aux quatre coins du monde.
afin de souhaiter aux auditeurs d'Europe 1 une bonne année planétaire, exemple pour le réveillon du 31 décembre 76.
23h59, 56 secondes, 57 secondes, 58, 59. Il est minuit ici en direct depuis Tokyo. Et ce sont par les 12 coups qui sonnent. Il n'y en a pas 12, il y en a 108. Mais comme il y en a pour une demi-heure, je vais vous faire entendre les premiers. Écoutez. Ça y est, c'est la fête qui commence.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Il est minuit à Manille. Bonne année en direct de Manille aux Philippines.
Europe 1 en direct de Rio, attention, stop! Il est minuit, ici à Rio, il y a les torchères qui tombent dans la piscine. Il fait jour à Rio alors qu'il est minuit, c'est quelque
Christian
chose de
Morin.
Oui, vous avez vu qu'il y avait eu Rio. Moi, je voulais Rio parce que je me disais je pourrais me baigner comme ça.
Et vous étiez, on l'a entendu, vous étiez au Japon.
Oui,
ouais.
Absolument.
Et alors, quel souvenir?
Oh ben, c'était super, mais il n'y avait pas la même ambiance parce que là-bas, si mes souvenirs sont exacts, le premier de l'an, il me semble, me souvenir, peut-être j'ai commis une erreur et je m'en excuse d'avance auprès de tous ceux qui m'écoutent, je crois que c'est le jour des morts.
C'est pas forcément un jour de fête.
Pas du tout. Pas du tout. C'est un jour qui n'est pas grave, ni, je veux dire, mais c'est important pour eux. Et je me souviens, enfin, il me semble, je me souviens qu'avec Jean-Marc Véran, mon réalisateur d'époque, on était tous les deux. On cherche un restaurant pas prêt après pour au moins le soir fêter un peu ça et il n'y en avait pas. On s'est retrouvé à l'hôtel en train de prendre un verre et puis c'est tout. Chacun est reparti de son côté dans sa chambre assez tristement. Et je me souviens qu'on avait une petite bouteille de champagne qu'on avait précieusement mis de côté pour faire sauter le bouchon à l'antenne alors que pour eux c'était pas.
Chers auditeurs, pensez à la condition parfois difficile de l'animateur qu'on envoie sur place pour leur faire plaisir et qui se retrouve devant un demi champagne
chaud.
Chaud.
Alors le 31 décembre suivant, rebelote, parce que vous allez refaire ça, sauf que là j'ai retrouvé trace de cela, mais on n'a pas le temps de vous le faire écouter.
Oui.
C'était à TF1 que vous trouviez et vous alliez venir vous étiez prévu à Paris pour orchestrer l'ensemble, hein. et vous aviez eu Belma en ligne et vous lui aviez passé Garcimore.
Qu'il présente ses vœux à Pierre. Ça devait être un sacré cadeau pour Belma.
Oui. Garcimore. Oui, c'est...
Ah oui, c'était mon complice des samedis après-midi.
Oui.
Oh, mais c'était quelqu'un d'extra.
Qui faisait rire l'autre?
Oh, lui. Lui.
Décontrasté.
Oui, mais parce que en fait, il faisait aucune répétition. Enfin, probablement, ça devait être très, très organisé. Tout ce qu'il faisait sur le plateau. Mais je me souviens encore d'une robe blanche, par exemple, pour vous donner un exemple, d'une jolie robe blanche qu'on m'avait prêtée pour l'antenne. Et juste, mais 30 secondes avant l'antenne, son stylo fuit et je me retrouve avec une tache d'encre et je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi tu m'as fait ça? Cadrez-moi en plan moyen, il faut pas qu'on voit ma tache. Enfin, c'était l'horreur. Et c'était de l'encre magique. Mais 30 secondes après, j'avais déjà plus. Mais moi, j'arrivais, j'étais stressée comme tout.
Avec certains humoristes, ça a été plus difficile. Avec Thierry Leluron qui a été aussi présent sur cette antenne, c'était pas aussi simple.
Non, mais Thierry,
simple,
je l'avais présenté déjà quelques années auparavant à Télé Dimanche.
Oui.
Mais avec Raymond Barcillac, déjà, j'avais fait tous les dimanches après-midi. Non, ça s'est toujours très bien passé avec Thierry.
Parce qu'il s'est volontiers moqué de vous, quand même.
Oui, mais à travers moi, à travers moi, c'était un peu de toutes les speakerines. Et c'est moi qui ai pris, quoi. Mais bon, c'était un honneur que d'être dans sa galerie de tableaux, quand même.
Vous vous souvenez du mariage de Coluche et de Leluron quelques années plus tard?
Oui.
Ça vous fera sourire, pleurer, rire?
Je n'y étais pas. Je n'y étais pas, mais je trouvais ça. Bon, c'était du Thierry. Mais pour eux, c'était la fête. Pour eux, rien. Ils avaient envie de s'amuser, de provoquer, et c'était la seule chose qui comptait.
Extrait d'un journal d'Europe 1 en 85, le mariage de Thierry Leluron et de Coluche, la troisième mi-temps.
Bonjour, mesdames, messieurs, enfoirés de tous horizons, qui sont du ministère, bonjour! Nous revenons de notre mariage, il y a toutes les filles qui sont là.
Il a l'air fatigué, dis
donc. Ah, j'en peux plus, je suis épuisé.
On a eu une journée épouvantable, hein?
Tu m'as mis sur les genoux.
Et attends, ça c'est la journée, tu as la nuit.
Hein? J'ai une épouse déconcertante.
C'était beau, non? Ça vous a plu? C'était bien? Oh là là, les hauts talons, moi j'arrête maintenant. Hein. C'est la dernière fois, hein, les hauts talons. Hein.
Alors, dis donc, Michel, tu pourrais quand même peut-être présenter notre témoin.
On a notre petite témouine. Eddie Barclay s'est habillé en fille, il nous a même prêté ses alliances parce qu'évidemment Thierry, dans sa précipitation, avait oublié les siennes.
Bah c'est que Cartier ne les a pas offertes.
Mais alors Cartier, il les offre pas à tout le monde?
Bah non.
Bon, alors aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu spéciale, puisque c'est surtout une spéciale mariage. Hein ? On a picolé comme des vaches.
J'ai picolé.
Oui.
Je ne vois même pas la feuille. Je la sens, si tu veux, avec les doigts, mais je ne la vois pas. Alors voilà. Attendez, j'ai des lunettes, ça va s'arranger. J'ai des lunettes. Voilà. Ah, c'est mieux.
Nous venons de recevoir les télégrammes de Dalida et Orlando. Ah. Tous nos voeux de bonheur.
Ah.
Et Johnny Orlando, Hallyday.
C'est le frère de Dalida.
Orlando, c'est pas un cadeau, une grande poussette plutôt, un peu comme ça.
Bah, écoute, en tout cas, c'est gentil à eux. Oui. Et puis Johnny Hallyday de mon tournage à Aurillac, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous deux.
Oh, c'est vrai, ah. C'est vrai. Voilà. On a reçu plein les télégrammes, on a eu des cadeaux. Thierry, on a même eu un cadeau d'RTL.
Oui, tiens, bah, je les ai. C'est deux montres RTL. Alors, il est marqué une bande d'enfoirés qui pensent bien à vous et vous souhaitent beaucoup de bonheur. Coluchement et le luronnement vôtre. RTL.
Ça, c'est sympa. Hein.
Ah, ça, puis c'est des cadeaux, moi.
Bon.
Merci. Alors, écoutez, on va prendre des auditeurs au téléphone tout à l'heure. S'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser, vous n'hésitez pas. On a vraiment, on a tous les droits. Hein. Merde, c'est une espèce de fête, un peu, si vous voulez. On peut encore avoir à boire, bordel, parce que c'est incroyable.
Ça sera bien, ça.
C'est un trou, je sais.
Vous, Denise, côté mariage, à titre personnel, vous pouvez dire merci à Europe 1, si j'ai bien compris, non?
Oui, parce que c'est grâce à Europe 1 que j'ai rencontré mon mari.
Dans quelles conditions?
Si vous voulez, il était l'adjoint de Gaston Lenôtre.
Oui.
Et j'avais une chronique tous les vendredis matins, et c'était le début de la chronique. Et Gaston
donc,
nous avait
parlait gastronomie.
Gastronomie, on donnait des recettes de cuisine. Oui. Bon, et je faisais la liaison avec les auditeurs et auditrices, bien sûr. Et ce jour-là, Gaston Lenôtre nous avait dit, c'était la toute première émission pour la préparer, hein. Il nous avait dit, venez, à l'époque il dirigeait le Précatelan, venait déjeuner avec nous et comme ça on va parler parce que c'est vrai qu'il était très très occupé. Bon, donc j'arrive avec toute l'équipe, je crois qu'on avait rendez-vous vers 12h30 et j'arrive avec toute l'équipe pour déjeuner, préparer l'émission avec lui et à 2h toujours personne, 2h30, donc le temps, nous on commençait un peu à s'énerver parce que d'abord on était quand même levé depuis très très tôt le matin et il arrive tranquillement vers 2h30 alors qu'on était là depuis 12h30 à l'attendre et on était obligé pour l'émission, on pouvait pas partir sinon on se serait levé, on aurait quitté le restaurant et il arrive, il nous présente son adjoint Francis et il me dit en souriant, de toute façon il va parler avec toi, tu vas voir il plaît beaucoup aux femmes. Alors moi déjà, j'étais très, très énervée. Et en plus, bon, franchement, je me suis dit intérieurement, mais pour qui ils se prennent, quoi? Pour qui ils se prend? Ça fait 2 heures qu'on attend avec toute l'équipe. Mais c'est pas possible. Donc, déjà, j'étais très, très mal disposée vis-à-vis de lui. Et tout a été comme ça après. Et ensuite, il nous a délégué Francis dès la deuxième émission pour prendre la suite de l'émission. Le jeune Francis qui plaisait beaucoup aux femmes, il continuait à séduire, à sourire et tout. Et moi, je l'avais dans le collimateur. Et un matin, je crois que c'est toi qui réalisais, il est arrivé, il a dit, je prends la place de Gaston. C'est moi qui vais lire les recettes. J'ai dit d'accord. Et bien entendu, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est-à-dire, je lui ai dit tout ce qu'il faut pas dire à quelqu'un qui fait sa première, pour la première fois à l'antenne. J'ai dit, vous avez pas le trac, tout va bien. Parce que bon, il me dit non, pas du tout, tout va bien. Et moi, je dis non, mais parce que quand on a le trac, on a tendance un peu à bredouiller à l'antenne. Non, c'est pas votre cas du tout. En fait, vous voyez, je lui ai pensé à des choses auxquelles il avait jamais pensé. Il a démarré l'antenne. Il était à l'antenne. Je crois qu'il a jamais lu des recettes aussi vite. Et moi, j'ai jamais entendu ça. Et j'avais dans le casque, je crois que c'est toi qui me disais, ne l'arrête surtout pas parce que si tu l'arrêtes, il reprendra jamais plus dans la lecture des recettes.
Et
ça s'est terminé quelques semaines après, il a continué. Ouais. Bon, après, il est gentiment arrivé un matin en me disant, vous savez, je prends même vraiment des tranquillisants, même le soir, tellement j'ai le trac le matin. Et là, il m'a ému parce que vraiment, là, il devenait gentil et au moins vrai et authentique. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à me plaire.
Et qu'il est.
Et voilà qui m'a invité, voilà qui est aujourd'hui mon mari depuis, on s'est mariés en 78.
C'est la fin de cette émission, Denise.
Oui.
J'ai été très heureux de passer cette heure avec vous, ainsi moi qu'avec aussi. Jean-Marie Pantalacci.
Moi aussi. Qu'on n'entend pas toujours beaucoup, hein, mais qu'on entend dans le casque.
C'est pas mon boulot.
Oui, mais dans le casque. Oui.
Enfin, en tous les cas, je suis persuadé que les enfants d'Europe 1 ont eu également plaisir à réentendre votre voix.
Merci.
Merci encore. Et à dimanche prochain, pour une nouvelle édition des Enfants d'Europe 1, nous accueillerons un grand monsieur de l'information qui a marqué cette maison. Je ne vous en dis pas davantage. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine, avec une très belle radio.